Nous avons entendu des paroles glorieuses. Peu importe qui prend la Bible en main, qui y lit quelque chose, qui en parle, toujours la même parole et la même bénédiction qui y est liée en ressort. Une chose m'a frappé. Cet unique, cet homme de l'Éthiopie s'est rendu à Jérusalem, mais il n'a pas trouvé les bonnes personnes à Jérusalem. Il est allé là où l'on ne comprenait pas le Seigneur. Il s'est rendu dans le temple, là où se trouvaient des scribes et d'autres personnes qui n'avaient pas reconnu le Seigneur et ses actions. Il aurait mieux valu qu'ils se rendent dans le rôle de Salomon, où les frères avaient déjà annoncé la parole du Seigneur. Mais il fit une chose. La faim n'était pas encore apaisée. Il prit avec lui le prophète Ésaïe. Amen. Dieu trouve un moyen pour chacun d'apaiser la faim, d'étancher la soif. Dieu trouve un moyen. Il peut nous arriver, à nous aussi, d'aller quelque part, mais la faim n'est pas apaisée. La soif n'est pas étanchée. La réponse n'est pas donnée. Et soudain, nous ne regardons pas. Nous ne voyons pas ce qui frappe aux yeux et tout ce qui entoure cela, mais nous rencontrons un homme qui a lui-même fait une rencontre avec le Seigneur, a eu une rencontre avec le Seigneur. Et là, tout change. Tout à coup, la compréhension vient par le prophète, sur le prophète Ésaïe, chapitre 53. Et vous savez que Philippe s'est rattaché à la parole et a annoncé l'évangile à cet homme. On aurait dû supposer que si quelqu'un se rendait vraiment à Jérusalem, dans la ville de Dieu, il rencontrerait Dieu, entendrait la parole de Dieu, serait béni par Dieu et pourrait rentrer chez lui. Non, ce n'est pas nécessairement le cas. C'est pas obligatoirement ainsi. Il ne s'agit pas d'une ville ou d'un lieu. C'est Dieu qui nous rencontre dans sa parole. Et c'est par son esprit qui nous révèle sa précieuse et sainte parole. Lisons encore quelques passages bibliques. Je voudrais commencer par 2 Rois, le chapitre 18. 2 Rois, au chapitre 18, nous lisons ici à partir du deuxième verset une parole tout à fait glorieuse. Nous voulons la recevoir dans nos cœurs et la laisser nous parler. J'ai choisi pour cette prédication le titre « Fais confiance au Seigneur ». Simplement faire confiance au Seigneur, quoi qu'il arrive, se confier à lui, lui faire confiance en toutes circonstances. 2 Rois 18, du verset 2. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui était agréable aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son ancêtre. C'est lui qui abolit le service des hauts lieux, qui brisa les pierres à peindre comme statues, qui abattit les arbres à idoles et qui mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fabriqué. Car jusqu'alors, les Israélites ne cessaient de lui offrir des sacrifices et on l'appelait Néostan, c'est-à-dire statue d'airain. Il mit sa confiance en l'Éternel. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, de sorte que parmi tous les rois de Juda, aucun ne l'a jamais égalé, ni après lui, ni parmi ceux qui l'ont précédé. Il fut attaché à l'Éternel. Il ne se détourna point de lui et il observa ses commandements, les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. L'Éternel fut donc avec lui, de sorte qu'il eut du succès dans toutes ses entreprises. Jusqu'ici, cette précieuse et glorieuse parole de Dieu. Dans le psaume 1, le frère Rousse a lu cette parole glorieuse de celui qui sert et suit l'Éternel. Il est dit que ce qu'il entreprend réussit. Ce qu'il commence, ce qu'il entreprend réussit et se déroule bien. Les hommes qui font confiance au Seigneur sont comme des arbres plantés près d'un courant d'eau. On ne les trouve pas là où les moqueurs sont assis, mais là où la parole de Dieu est apportée, là où le Seigneur nous parle. C'est là aussi qu'il nous bénit. Il faut aller là où il nous parle. Quand j'ai lu la phrase, et plus précisément le verset 5, Deutéronome 18, verset 5, il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Deutéronome 18, verset 5. Quelle leçon merveilleuse! Pas dans les armées, pas dans la puissance, pas en lui-même, mais dans le Dieu d'Israël. Il mit sa confiance, il savait ce que le Dieu d'Israël avait déjà fait pour le peuple d'Israël. Et il avait confiance dans le fait que ce même Dieu serait avec lui de la même manière. Cet homme, Ézéchias, était un homme courageux. Il ne s'est pas contenté de prêcher, il a agi. Il a détruit ce qui n'était pas conforme à la parole pour amener le peuple à se repentir, à revenir à Dieu, pour que toute idolâtrie prenne fin. Il a mis fin à tout cela et a ramené le peuple de Dieu au Seigneur, leur Dieu. Il a régné pendant un certain temps, mais ce n'était pas le plus important. Le verset 3 est important. Il fit ce qui était agréable aux yeux de l'Éternel. Que nous puissions réussir à faire ce qui plaît à l'Éternel. Qu'est-ce qui lui plaît? Qu'est-ce qui lui est agréable lorsque nous faisons sa volonté? Si nous mettons notre volonté dans sa volonté et faisons ce qu'il nous a commandé, alors le bon plaisir de Dieu reposera sur nous. Il a fait ce qui est agréable au Seigneur. Que Dieu fasse de toi, de moi, de nous tous, des hommes qui fassent ce qui est agréable à Dieu. Car c'est sur cela seulement que repose sa bénédiction. Et c'est seulement alors qu'il peut vraiment être avec nous. Si nous faisons ce qui est droit à ses yeux, il est dit, tout comme l'avait fait son ancêtre David. David était un homme selon le cœur de Dieu. Il a peut-être commis quelques erreurs sur le plan terrestre, mais son cœur était entièrement attaché à Dieu. C'est ce genre d'homme que Dieu veut faire de nous. Des hommes qui s'attachent à Dieu, et cela de tout leur cœur et de toute leur âme, qui s'attachent et font ce qu'il a commandé. Il est ensuite dit au verset 4 de 2 Rois 18, « C'est lui qui abolit le service des hauts lieux, qui brisa les pierres à peindre comme statues, qui a bâti les arbres à idoles, et qui mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fabriqué. Car vous savez que c'est par le serpent que le péché est entré dans ce monde. Et lorsque la désobéissance était grande parmi le peuple d'Israël autrefois et que beaucoup mouraient, le Seigneur a ordonné à Moïse d'ériger un serpent d'airain. Je voudrais le dire clairement ici. Le serpent n'est jamais un type de Christ. Le serpent était, est et restera toujours un type de Satan et rien d'autre. Sur Satan et rien d'autre. Mais cela aussi doit être dit. De même que Moïse a élevé ce serpent, de même Christ a été élevé parce qu'il a dû écraser la tête du serpent. Les deux ont été manifestés, à savoir celui par qui le péché est entré dans ce monde et celui par qui le péché a été ôté de ce monde. Nous y trouvons là les deux choses. J'espère que je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails ici. Je ne veux pas que quiconque compare mon Seigneur, mon bien-aimé Seigneur, au serpent. Non. De même que le serpent élevé par Moïse devait montrer au peuple d'Israël par qui le péché, la désobéissance, la mort et tout le reste étaient entrés dans ce monde. De même, Christ a été élevé pour nous délivrer de la perdition, nous racheter, nous sauver et nous couronner de grâce et de miséricorde. Nous lisons encore dans ce texte qu'il a ou qu'il était, qu'il avait déjà auparavant fondamentalement nettoyé tout autour de lui. Rien ne restait comme idolâtrie, que ce soit des arbres, des pierres à peindre comme statues, quoi que ce soit, il a frappé, détruit et fait le ménage pour que le peuple de Dieu ne se prosterne pas devant une quelconque image, devant un quelconque arbre tordu où l'on érigeait un quelconque autel, mais pour que le peuple de Dieu se prosterne en esprit et en vérité. Et adore en esprit et en vérité. Il n'est pas nécessaire de se faire une image ou une statue ou une imagination, car il est écrit que ceux qui veulent adorer Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Mais voyez, comme l'esprit d'idolâtrie peut vite entrer dans le cœur des hommes. Au temps de Moïse, le serpent d'airain était une chose merveilleuse. Tout le monde pouvait le regarder et accepter avec foi que le Christ, la semence de la femme, viendrait et écraserait la tête de cet ancien serpent. Et tous ceux qui le regardaient ainsi vivaient. Vous devez voir la révélation dans la chose. Comprenez-vous? Ce n'est pas seulement qu'un serpent a été élevé et quelqu'un ne sera sauvé qu'en regardant le serpent. Celui qui regarde le serpent dans l'incrédulité ou dans une vision erronée ne sera certainement pas sauvé. Dieu a vraiment voulu montrer ce qui s'était déjà passé dans le jardin d'Éden et montrer par quoi le péché et la séparation d'avec Dieu sont arrivés, c'est-à-dire par le serpent. En ce temps-là, et vous savez que Moïse était l'homme de Dieu, fidèle dans toute la maison de Dieu, comme Christ est fidèle dans sa propre maison. C'est ce qui est écrit dans l'Épître aux Hébreux. Ici, ce serpent, cette image, a reçu une toute autre fonction. On lui a rendu hommage. Les gens n'ont plus guéri, ils sont tombés malades. Ils ont transformé ce qui était une bonne chose en quelque chose de mauvais. Si nous regardons dans la chrétienté, même avec le Christ, on a fait ce qu'il ne voulait pas qu'on fasse de lui. Tous ces crucifixes, toutes ces choses que l'on voit, Les gens se prosternent, rendent hommage, adorent. Et j'ai failli être frappé. J'étais moi-même au Vatican plusieurs fois. Et j'ai vraiment regardé dans la basilique Saint-Pierre comment des gens de tous les pays embrassaient le pied de la statue de Pierre. Mais quand j'ai vu la photo du pape Pie XII embrassant ce pied et se faisant photographier, quelle idolâtrie pathétique. Cela ne peut pas être pire. Toute la chrétienté apostate déchue a fait de notre Seigneur Jésus-Christ un sujet de moquerie, en fait. Mais merci au Seigneur qu'il y ait encore des gens qui adorent vraiment en esprit et en vérité, qui ont été retirés de l'erreur pour pouvoir servir le Dieu vivant. Il est dit ici, comme je viens de le lire au verset 5, et c'est bien là l'important. Il a mis sa confiance dans le Seigneur, le Dieu d'Israël. Et parce qu'il a fait cela, il a pu faire le ménage tout autour de lui. Rien n'a été laissé de côté ou exclu. Il a fait le ménage. Et qu'a-t-il nettoyé? Ce qui faisait obstacle à Dieu, ce qui n'était pas en accord avec la parole de Dieu, c'est ce qu'il a nettoyé. Merci au Seigneur pour cela. Il a fait parce qu'il a placé sa confiance dans le Dieu d'Israël. Bien-aimés, lorsque nous annonçons la parole dans ce temps, nous plaçons aussi notre confiance dans le Dieu Tout-Puissant. Sinon, nous ne pourrions pas du tout aborder toutes ces choses, les renverser. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut s'y attaquer. Il faut renverser ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, afin que l'ordre divin soit rétabli parmi le peuple de Dieu. Vous savez que lorsque les peuples païens servent des idoles sous leurs arbres, c'est une chose, certes grave. Mais lorsque le peuple de Dieu, des hommes en qui Dieu a fait de grandes choses, s'en écarte par la suite, deviennent tièdes. Donc, s'écarte de ce que Dieu a fait pour eux, deviennent tièdes et passent du service divin à l'idolâtrie. Dieu ne le veut pas. Et je pense qu'en ce moment, comme en ces jours-là, Dieu a envoyé un message pour faire le ménage, pour renverser, pour arracher, comme cela a été dit au prophète Jérémie. Je te désigne aujourd'hui comme prophète sur la nation. Laissez-moi le lire, s'il vous plaît. C'est écrit dans Jérémie, chapitre 1. Jérémie, chapitre 1, verset 9. Et 10. Là-dessus, l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche avec elle. Puis l'Éternel me dit, je mets ici mes paroles dans ta bouche. Sache bien que je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour arracher et abattre, pour détruire et anéantir, pour rebâtir et planter. D'abord l'un, puis l'autre. Arracher, renverser, détruire tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, pour ensuite implanter, construire tout ce qui est conforme à la parole de Dieu, afin que Dieu puisse reprendre ses droits parmi son peuple et recevoir ce qui lui revient de plein droit. Pour cela, Dieu, c'est pour cette raison que Dieu envoie ses serviteurs et ses messagers tôt, donc matin et soir. Je poursuis ici ma lecture et puis précisément le verset 6. de 2 Rois, chapitre 18, verset 6 maintenant. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Il fut attaché à l'Éternel. Il fit confiance à son Dieu et il ne se détourna point de lui. Nous voulons faire la même chose. Faisons confiance à notre Dieu. Attachons-nous à lui et à sa parole. Il n'y a jamais eu d'homme qui ait eu honte d'avoir placé sa confiance dans le Seigneur. Devrions-nous être les premiers à être confondus? Non, c'est impossible. Ô fidèle refuge, tel que le ciel ne peut pas s'écrouler, ainsi ta parole ne peut pas m'induire en erreur. Il faudrait que le ciel s'écroule pour que ta parole puisse m'enduire en erreur. Il se rend, Dieu se tiendra aux côtés de ceux qui se tiennent à ses côtés. Il se rangera du côté de ceux qui se sont rangés de son côté. Amen. Dieu ne fait pas de compromis. Il veut des gens qu'il peut avoir entièrement et qu'il peut aussi utiliser entièrement. Il s'est attaché au Seigneur. Je crois pouvoir dire que nous faisons la même chose. Nous aimons notre Dieu de tout notre cœur. Pouvons-nous le dire ainsi? Est-ce vraiment vrai? L'aimons-nous vraiment de tout notre cœur? Selon la parole de l'Écriture, tu aimeras ton Seigneur. J'allais justement dire, pour les vrais enfants de Dieu, on pourrait laisser tomber les doigts et les doigts de vrais. Lorsque l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire autrement que d'aimer à nouveau en retour Dieu de tout notre cœur. C'est comme un cycle divin qui traverse nos cœurs. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous l'aimons parce qu'il nous a appelés à sortir. Par amour, rendons grâce à son nom glorieux. Nous n'avons pas besoin de tu dois, tu devrais. Non, nous voulons pas de devoir ou bien de vrai. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés. Ce n'est pas une obligation. Nous l'aimons de notre cœur parce qu'il nous a aimés le premier. Et tous ceux qui ont été aimés par lui l'aimeront et s'aimeront aussi les uns les autres dans l'amour divin. À l'heure, et l'heure est effectivement venue pour nous, non seulement de proclamer et d'entendre ces choses, mais aussi de demander à Dieu une effusion de son esprit dans lequel sont contenus tous les dons et tous les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, et ainsi de suite. Tout est écrit. Dieu fera aussi de nous des personnes qui placent leur confiance en lui, qui font ce qui lui plaît, qui renversent et arrachent ou déracinent ce qui n'est pas de lui, qui plantent et construisent ce qui est conforme à sa parole. Pour vous, édifiez-vous sur le fondement très saint de la foi et priez dans le Saint-Esprit. Ça, c'est écrit dans Jude. Puisse ce week-end aussi servir à ce que nous soyons édifiés sur le très saint fondement de la foi, à ce que nous trouvions à nouveau le lien et la communion intime et personnelle avec Dieu, à ce que l'amour de Dieu puisse à nouveau pénétrer dans nos cœurs, pulser, et que nous soyons plus proches de lui et aussi plus intimement liés les uns aux autres. J'y crois vraiment. Plus nous nous rapprochons de la venue du Seigneur, plus le lien avec lui et entre nous se renforce. Plus la communion avec lui et entre nous devient et ainsi plus la communion avec lui et entre nous devient intime. Combien de fois des malentendus surgissent rapidement et l'on dit de l'amour qu'il supporte tout, qu'il endure tout, qu'il n'entend même pas la parole déplacée prononcé avec colère, il ne voit même pas l'acte répréhensible des autres. Il passe outre comme si rien ne s'était passé. Car l'amour ouvre la multitude, couvre la multitude des péchés. On ne parle plus de l'erreur que telle ou telle a commise, mais de l'amour de Dieu qui nous, pour nous tous, pour chacun de nous, dont nous avons été, dont nous avons fait l'expérience personnellement. En quoi cela aide-t-il un homme de parler de ce qu'il, elle ou d'autres, ont fait de mal? Parlons plutôt de ce que Dieu a fait de bien. Ce que nous avons fait est de toute façon faux. Seul ce que Dieu fait à travers nous est juste. Aujourd'hui encore, en tant que croyants, nous pouvons nous mettre en travers de notre propre chemin si nous pensons devoir faire ceci ou cela. Ce n'est que lorsque par une véritable direction du Saint-Esprit, conduite du Saint-Esprit, par une inspiration directe qui peut nous être accordé par le Seigneur comme inspiration. Ce que le Seigneur veut que nous fassions et que nous disions, c'est seulement comme ça que sa parole et que cela sera selon sa parole et selon sa volonté. Et sa bénédiction reposera sur nous et sur ce que nous dirions et ferions. Je lis encore le verset 7 de Rois, chapitre 18. L'Éternel fut donc avec lui et de sorte qu'il eut du succès dans toutes ses entreprises. Chers frères et sœurs, nous voulons que tout réussisse, que la bénédiction de Dieu repose sur tout. Cherchons à faire comme Ézéchias. Il a fait. Comme Ézéchias a fait à Ézéchias. Il a fait ce qui était agréable à l'Éternel. Il a fait confiance au Dieu d'Israël. Vous connaissez tous la parole des Proverbes 3, verset 5, qui ne l'a pas écrite sur la tablette de son cœur. Proverbes chapitre 3, verset 5. Il est dit ici, Proverbes 3, verset 5. Mets en l'Éternel ta confiance de tout ton cœur. Mets en l'Éternel ta confiance de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Pense à lui dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Louons le nom du Seigneur. J'imagine que lorsqu'Ézéchias était en chemin, qu'il brisait les pierres à peindre comme statue et abattait les arbres idolâtres, il ressentait bien les choses. Il se sentait bien, n'est-ce pas, en le faisant. Il savait que ce qu'il faisait, il le faisait sur ordre de Dieu, dans la volonté de Dieu. Il le faisait de tout son cœur. Qu'il en soit de même pour nous. Que nous fassions vraiment ce qui est droit, ce qui doit être fait par joie pour le Seigneur. Non pas pour le plaisir de gâcher la fête des idolâtres. Ce n'est pas ce qui l'intéressait. Il se préoccupait plutôt de l'âme du peuple. Il se plaignait du peuple. Il ne pouvait pas avoir de fausse compassion. Il ne pouvait pas penser, oui, que vont-ils faire maintenant? Que vont-ils penser de moi? Il voulait que l'un prenne fin pour qu'un autre puisse commencer avec Dieu. Et il voulait que l'une prenne fin pour que l'autre puisse commencer avec Dieu. Il en va de même aujourd'hui. Dieu ne veut pas de mélange. Dieu veut la fin d'une chose et le début d'une autre. Pas de mélange. La fin avec tout ce qui n'est pas de Dieu et qui par conséquent n'est pas conforme à sa parole et le commencement avec Dieu. Tout comme cela est conforme à sa parole. Je voudrais lire le psaume 118. Psaume 118. Une parole tout à fait glorieuse du verset 5. Psaume 118, verset 5. Du verset 5. Psaume 118, verset 5. Du fond de ma détresse, j'ai crié vers l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé. Il m'a donné un large espace. Si l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Si l'Éternel intervient en ma faveur pour me secourir, je pousserai des cris de joie victorieux contre mes ennemis. Mais je continue à lire. Maintenant, les deux prochains versets. mieux. Non, à partir du verset 8. Mieux vaut se confier en l'Éternel que de se confier aux hommes. Mieux vaut se confier en l'Éternel que de se reposer sur des princes. En tant qu'être humain, nous penserions que si quelqu'un d'influent était ici parmi nous, le maire, il pourrait exercer une influence. Oui, quelle influence pourrait-il exercer? Qui peut me le dire? Si nous avions quelqu'un de haut placé, quelle influence pourrait-il exercer sur le plan spirituel de Dieu? Aucune. Aucune. Et Paul écrit aux Corinthiens, il n'y a pas parmi vous beaucoup de personnes influentes, ni de personnes haut placées, ni de savants. Non. Ce qui est insensé aux yeux du monde, c'est ce que Dieu a choisi. Dieu ne veut pas d'influence terrestre dans son royaume. Dieu a suffisamment d'influence lui-même. Nous voulons être sous son influence. Et si le maire vient ou ce qui a toujours été là, ici et là, jusqu'à Bonn, s'ils viennent, on veut leur souhaiter la bienvenue, chaleureusement. Et leur souhaiter la bienvenue, ça c'est sûr. Mais tous ceux qui veulent subsister devant Dieu doivent se soumettre eux-mêmes à l'influence de Dieu. Ils doivent être saisis par Dieu. Nous ne sommes tout de même pas ici pour être influencés par une personne très respectée ou même pour être sous son influence. Nous sommes ici pour entendre la parole du Dieu Tout-Puissant. Et nous sommes ici sous l'influence divine, inspirée par le Saint-Esprit, et nous voyons ce que Dieu a révélé par grâce. Comme ces hommes, qu'il s'agisse d'Ézéchias ou de qui que ce soit d'autre, quiconque a célébré des victoires avec Dieu, quiconque a réussi avec l'Éternel, ce sont ceux-là qui avaient placé leur confiance en l'Éternel. Ce sont ceux-là qui ont réussi avec l'Éternel. Et qui ne pouvait pas dire par la suite, regardez, je l'ai bien fait, regardez maintenant les arbres renversés, les arbres abattus, les autres, les autels brisés, voilà, c'est moi qui l'ai fait. Aucun homme de Dieu ne s'est attribué quoi que ce soit. Tout homme de Dieu a agi sur l'ordre du Très-Haut. Il a fait ce que Dieu lui avait demandé de faire et a placé sa confiance dans le Seigneur. Puis-je demander? Qui a fendu la mer rouge, Moïse ou Dieu? Dieu l'a divisé. Et qu'a fait Moïse? Moïse a levé le bâton. Moïse a levé le bâton avec foi. Il a fait ce que Dieu lui avait ordonné de faire. Mais c'est Dieu qui a fait ce que Moïse ne pouvait pas faire. Moïse a fait ce qu'il pouvait faire, conformément à ce que l'Éternel lui avait dit de faire. Mais c'est Dieu qui s'est chargé du reste. Qui a divisé le Jourdain? Josué? Non. C'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui a partagé le Jourdain. Josué a fait ce qui lui a été ordonné. Mets l'arche d'alliance sur l'autel des sacrificateurs et approchez-vous du Jourdain. Je partagerai les eaux. Les hommes de Dieu font ce que le Seigneur leur a ordonné. Et compte ensuite sur Dieu pour faire ce qu'il a promis. C'est ce qui nous arrive à tous. Lorsque nous prions pour les malades, nous ne guérissons pas. Nous croyons que Christ a été frappé et martyrisé en son corps, afin que nous puissions être guéris de nos maladies. Car c'est ainsi que c'est écrit. Par ses meurtrissures, par ses blessures, la guérison nous a été accordée. Il ne nous reste plus qu'à le croire, à l'accepter et à le vivre. C'est une œuvre de rédemption accomplie selon l'âme, l'esprit et le corps. En ces jours, en ce week-end, il serait beau que nous puissions expérimenter Dieu, vivre Dieu de l'intérieur, dans l'âme, dans l'esprit, et si nécessaire, dans notre corps. Nous pouvons expérimenter Dieu. Il est présent dans les services divins. Il a fait ses promesses et il confirme sa parole. Notre frère bien-aimé s'est référé à l'ordre de mission que le Seigneur a donné tout à la fin. Et dans Marc 16, il est écrit, n'est-ce pas? Je serai avec vous. Puis, aux malades, ils imposeront les mains et ainsi de suite. Nous le faisons parce que nous croyons que l'œuvre a été déjà accomplie à Golgotha. Qu'en pensez-vous? Si un apôtre se trouvait devant un aveugle et qu'on lui confiait la tâche de guérir cet aveugle, oui, il serait tombé à la renverse. Il aurait dit, mais qui suis-je? Je ne le peux pas. Je ne peux pas faire ça. Mais les apôtres ont fait confiance à Dieu et à ce qu'il avait promis, et Dieu est resté fidèle à sa parole. Faisons de même. Ce n'est pas nous qui sommes chargés de faire ce que le Seigneur a déjà fait. Nous sommes ici pour annoncer le glorieux évangile de Jésus-Christ, le crucifié. Il était blessé et meurtri à cause de nos péchés, frappé et martyrisé à cause de nos transgressions. Le châtiment a été mis sur lui pour notre paix, car c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. C'est un fait divin. Nous ne faisons que le proclamer. Et maintenant, nous voulons en faire l'expérience. Combien croient que cela est vraiment possible ce soir? Combien le croient? Il y a des infirmités dans l'âme, dans l'esprit et dans le corps. Combien croient que Dieu peut confirmera sa parole aujourd'hui? Qu'elle ne reviendra pas à vide et sans effet, mais qu'elle produira l'effet pour lequel elle a été envoyée. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Mettons aujourd'hui et pour toujours notre confiance dans le Seigneur. Dans le psaume 118, nous avons lu le verset 5. Du fond de ma détresse, j'ai crié vers l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé. Il m'a donné un large espace. Combien de fois nous trouvons-nous dans des situations où nous ne savons plus où donner de la tête? Crions alors vers le Seigneur. Levons les yeux vers lui avec foi et confiance, car il a promis de ne pas nous délaisser et de ne pas nous abandonner. Il est dit au verset 6, si l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Ézéchias ne craignait rien. Il détruisit ce qui devait être détruit, abattit ce qui devait être abattu, détruisit ce qui devait être détruit, reconstruisit ce qui devait être reconstruit. Il ne craignit rien. Pourquoi? Parce qu'il avait placé sa confiance dans le Seigneur Dieu. Il savait, je n'agis pas en mon propre nom, ni pour mon propre compte, j'agis au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et dans sa sainte mission, donc ordonné par lui, je fais ce qu'il m'a ordonné. Et Dieu était avec lui. Si l'on peut dire de nous la même chose, à savoir que nous agissons par ordre de Dieu, alors Dieu sera avec nous, comme il a été avec nos pères, et confirmera sa parole. Maintenant et à la fin, comme il a fait au commencement. Il ne peut en être autrement. Dieu est saint. Sa parole est sainte. Ce qu'il a promis, il le tient assurément. Dans le verset 7 du psaume 118, le verset 7. Si l'Éternel intervient en ma faveur, pour me secourir, je pousserai des cris de joie victorieux contre mes ennemis. Non pas les puissances ennemies sur nous, mais à cause de la victoire de Golgotha, nous pouvons être vainqueurs de toutes les puissances vaincues. Elles ne sont pas seulement vaincues. Ce n'est pas maintenant qu'elles seront vaincues. Elles sont déjà vaincues. Jésus ne sera pas d'abord vainqueur. Il est déjà le vainqueur de Golgotha, depuis Golgotha, et il est ressuscité le troisième jour. Un frère de New Jersey, juste en face de New York, m'a alors demandé, juste en face du fleuve, de lui expliquer ce qu'était là, et que signifient les trois jours et les trois nuits du prophète Jonas par rapport à la résurrection de Jésus-Christ. Il m'a répondu, il disait que notre Seigneur n'a pas été trois jours et trois nuits entiers. Je lui ai répondu très gentiment qu'il ne devait pas du tout s'inquiéter de la longueur. Il doit juste lire une fois de plus correctement. Notre Seigneur a alors dit, il ne vous sera donné aucun autre signe. Aucun autre signe ici ne vous sera donné. Quel était ce signe? Jonas était au fond. Il ne pouvait pas aller plus bas. Des algues s'étaient déjà accrochées à son cou. C'est alors qu'il a crié vers le Seigneur, son Dieu. Il était perdu. Il était abandonné. Mais pas par Dieu. Qu'est-ce que c'était? Le signe de la résurrection. Lui qui avait été livré à la mort a été recueilli. Il a été rattrapé et ramené sur la terre ferme. Non pas en tant que désobéissant, fuyant Dieu, mais en tant qu'obéissant au service de Dieu. Se tenant au service de Dieu. Et le Seigneur était avec lui. Le signe de la résurrection. Combien de temps mon Seigneur est resté là en bas? Cela m'est vraiment égal. Il est égal. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures, que les jours et les nuits aient été pleines, mais également égales. Mais une chose importante, c'est qu'il a vaincu la mort, il a triomphé de l'enfer, il a pris les clés de la mort et de l'enfer à Satan, et il est ressuscité victorieux d'entre les morts le troisième jour. Que celui qui veut se préoccuper du temps le fasse. Par la grâce de Dieu, j'en ai compris le sens. Le signe de la résurrection, c'est de ça qu'il s'agit. Celui qui a été crucifié, qui est mort, qui a été déposé dans le sépulcre, qui a été même scellé, le sépulcre a été scellé et qui a été gardé et ressuscité le troisième jour. Il ne vous sera donné d'autre signe que le signe du prophète Jonas. Celui qui a été livré est ressorti. Notre Seigneur a été livré et il a été martyrisé et il est mort. Mais il est ressuscité, il est vivant. C'est le signe de la résurrection et j'y crois. La puissance de la résurrection doit aussi être effective et manifestée dans les croyants. Et nous aussi, nous mettons toute notre confiance dans le Seigneur. Et maintenant, le verset 8 et 9 du psaume 118. Mieux vaut se confier en l'Éternel que se confier aux hommes. Et ensuite, la différence est faite au verset 9. Mieux vaut se confier en l'Éternel que de se reposer sur des princes. On peut se fier à quelqu'un en pensant que les choses vont bien, iront bien, et ensuite, on a tendance à faire appel à quelqu'un de plus haut placé et à se fier plutôt à lui, qui a plus d'influence et vers qui on lève les yeux. Le psalmiste dit, l'un et l'autre sont vains. Il vaut mieux faire confiance au Seigneur. Ne pas chercher de l'aide auprès des gens, qu'ils soient haut placés ou bas placés, respectés ou non, mais placer toute notre confiance dans le Seigneur, notre Dieu, et cela entièrement. Il y aurait encore quelques passages bibliques à lire qui parlent de cette confiance. Et si Dieu le veut, nous continuerons demain. Que le Seigneur ait réussi ce soir à mettre dans nos cœurs la parole de la foi et de la confiance et de l'assurance. Que nous n'attendions plus l'aide des hommes ou que nous ne fassions plus confiance à un homme, mais que nous fassions vraiment confiance qu'à notre Seigneur et que nous fassions ce qu'il a ordonné afin que sa bénédiction puisse vraiment reposer dans tout ce qui est fait ou sur tout ce qui est fait. Ce n'est que là où l'on fait ce que Dieu a dit et où l'on agit conformément à sa parole que Dieu peut bénir. Et c'est seulement là qu'il peut bénir. Et c'est pourquoi je crois qu'il bénira et qu'il a déjà béni. Car je crois qu'en ce lieu, nous n'avons pas annoncé des fables habilement conçues, mais réellement la vraie parole de Dieu. Et là où se trouve la vraie parole de Dieu et la révélation du nom de Jésus-Christ et la révélation de la volonté de Dieu. Par la parole de Dieu, par la parole et l'esprit, Dieu doit se révéler ou se manifester. Je pense qu'il le fera ce soir. Je crois qu'il le fera ce soir. Il a déjà commencé à renforcer notre foi, à reconstruire notre confiance en lui, à ne pas regarder les pierres à peindre comme des statues, les arbres à sacrifice ou quoi que ce soit d'autre, mais à regarder au Seigneur. Et il le fera, sans doute, et alors nous y parviendrons aussi. Cela nous réussira. Si nous lui faisons confiance, son bon plaisir reposera sur nous. Si nous lui faisons confiance, nous lui serons agréables et nous réussirons alors ce qu'il nous a ordonné. Permettez-moi alors que mes yeux tombent encore sur le psaume 115 de lire les trois versets, psaume 115, versets 9, 10 et 11. Toi, Israël, fais confiance à l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous, maison d'Israël, faites confiance à l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, faites confiance à l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Paul dit dans un autre passage, « Je sais en qui j'ai mis ma confiance, je sais en qui je crois. » Nous aussi, nous savons en qui nous croyons. Nous aussi, nous savons en qui nous avons placé notre confiance. Combien de fois le Seigneur a-t-il dit, « N'ayez pas peur, ne craignez rien. » La confiance est liée à la foi et la foi à la confiance. Souvent, les traducteurs de la Bible ont eu du mal à distinguer même la fidélité de la foi. L'une traduit comme ceci et l'autre comme cela. Si Dieu est avec nous, alors nous sommes fidèles. Alors nous croyons. Alors nous faisons confiance. Alors nous faisons ce qu'il nous a ordonné. On fait alors le ménage dans ce qui n'est pas divin et on construit le divin ensuite. Trois choses sont mentionnées ici. Qu'Israël ait confiance en l'Éternel. Que la maison d'Israël ait confiance en l'Éternel. Puis tous, y compris nous, sont inclus. Et il est dit, vous qui craignez l'Éternel, ayez confiance en l'Éternel. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Pas seulement Israël et la maison d'Aaron, mais nous tous qui craignons Dieu, non pas craindre d'un châtiment, mais par une sainte crainte, dans une sainte crainte. Je ne sais pas quand est-ce que c'était, mais un mercredi soir, en ce lieu, un frère a prié, « Seigneur, si tu n'avais pas été présent ici, tu n'aurais pas pu nous parler. » Cela m'a plu. Je l'ai intégré directement dans ma prière. Réfléchissez à ce qui a été dit. Seigneur, si tu n'avais pas été présent, tu n'aurais pas pu nous parler. Mais parce que tu es présent, tu nous parles par ta parole et par ton esprit. Aujourd'hui, il nous a parlé par sa précieuse et sainte parole. Il a parlé à mon cœur, il a parlé à ton cœur. Faisons confiance au Seigneur. Faisons confiance au Seigneur et ne nous appuyons pas sur notre propre sagesse. Il fera bien les choses. Il le fera. Il fera sortir les choses avec gloire. Il les achèvera avec gloire. Nous aussi, nous le remercierons encore pour son aide, pour son assistance, pour tous ses conseils et ses directives. Et un jour, nous le remercierons encore pour toutes les tribulations et les épreuves que nous avons traversées et qui nous ont purifiées jusqu'à ce que notre foi soit plus précieuse que l'or périssable qui est purifié par le feu. Qui est purifié dans le feu et par le feu. Notre Seigneur est fidèle. Loué soit son, loué et exalté soit son saint nom. Alléluia. Amen. Amen. Levons-nous et remercions ensemble le Seigneur avant de le faire. Chantons ce cœur tel que je suis sans rien de moi. Ô agneau de Dieu, je viens, je viens, je viens. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, en vertu de l'autorité de ta parole et de la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te demandons maintenant de confirmer ta parole, de nous bénir, de mettre en nous une confiance en toi qui soit inébranlable, éprouvée en toute situation, en toute circonstance. Car ce que tu fais est bien fait. Loué soit ton saint nom. Seigneur, que la détresse soit dans l'âme, dans l'esprit ou dans le corps, maintenant, tu l'as déjà fait, car nous croyons en l'œuvre de la rédemption accomplie sur la croix à Golgotha. Celui qui était perdu est sauvé. Celui qui était lié est libéré. Celui qui était malade est guéri. Seigneur, je te remercie pour le plein évangile qui est sur le point d'éclater à nouveau, de percer à nouveau, de se frayer un chemin et d'atteindre ton peuple. Seigneur, bien-aimé, de même que ton évangile est plein, tu veux qu'il perce pleinement dans toute sa plénitude sur tout l'homme, dans l'âme, l'esprit et le corps. Seigneur, que l'effet de ta puissance soit si puissant que tous les ressentis, que tous les ressentis. Je te remercie, Dieu fidèle, car nous pouvons nous aussi placer notre confiance en toi. Et c'est pour cela que nous ne serons pas confus. Seigneur bien-aimé, ne laisse personne sombrer dans le doute sans y croire. Mais arrache-nous et place-nous dans la foi et la confiance en toi, le Dieu Tout-Puissant. Seigneur bien-aimé, confirme ta sainte parole en nous tous, partout où une confirmation et une expérience sont nécessaires. Et nous sommes tous dans le besoin. Nous avons tous besoin de toi et c'est pourquoi nous te prions ensemble. Confirme ta parole par les signes et les miracles qui suivent. Fais en sorte que cela se produise maintenant. Que la foi en toi et en ton œuvre de rédemption accomplie devienne si puissante que nous puissions te faire que nous puissions t'expérimenter maintenant, à ce moment bien précis, et t'en remercier. Oui, Seigneur, tu l'as déjà fait. Cela s'est passé sous la prédication, ici, ton esprit a rendu ta parole vivante, a produit la foi par la prédication, et cela s'est fait, est arrivé par la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Tous ceux qui croient disent Amen. Alléluia. 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 Gloire et honneur au Dieu vivant. Dieu est une réalité. Sa parole est une réalité. Sa puissance est une réalité. Alléluia. Nous avons affaire à une réalité divine. Qu'il soit loué maintenant et pour toujours. Et pour toute éternité. Est-ce que la prédication et la parole vous ont été transmis, vous ont transmis ce dont il s'agit, vous ont procuré ce dont il s'agit de faire, il s'agit de faire confiance au Seigneur et de faire ensuite ce qu'il veut qu'on fasse. Et ensuite, sa bénédiction repose sur ce que nous faisons. C'est alors que nous réussirons. Et il est avec nous et tout se passe bien. Que son nom soit loué. Amen.